Il y a 75 ans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies voyait le jour, avec comme objectif premier le maintien de la paix et de la sécurité internationale. 193 pays en font aujourd'hui partie, et c'est ce lundi que débute cette grand-messe diplomatique, l'Assemblée Générale qui réunit tous les pays membres. Un 75e anniversaire et une assemblée un peu particulière en ces temps de pandémie. Aucun dirigeant n'a fait le déplacement à New York, Covid oblige. C'est donc par visioconférence que chacun va prendre la parole à tour de rôle, avec une journée très dense, puisque le tirage au sort a choisi Jair Bolsonaro, président brésilien, Donald Trump, Xi Jinping ou encore Emmanuel Macron. Nicolas Normand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio France Internationale. Vous êtes ministre plénipotentiaire honoraire, ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo et au Sénégal. Une Assemblée générale des Nations Unies en visioconférence, ça ne s'est jamais vu. Que peut-on attendre d'une telle réunion virtuelle ?
On ne peut pas objectivement en attendre grand-chose, parce que depuis plusieurs années, depuis 2015 déjà, l'Assemblée générale des Nations Unies tourne un peu au ralenti, parce qu'il n'y a plus de grandes décisions qui sont prises en commun, il faut le consensus. En plus, les derniers grands succès datent de 2015, avec la COP21 sur le climat, avec les objectifs du développement durable. Depuis, on est dans une période d'affaiblissement du multilatéralisme, surtout l'ONU sous son aspect politique, c'est-à-dire l'Assemblée générale, parce que les agents spécialisés qui font du multilatéralisme technique, ça continue de fonctionner et d'être indispensable, parce qu'il y a des tas de questions comme le climat, l'environnement, la santé, l'aide au développement, l'économie internationale, le commerce, qui dépassent évidemment la compétence d'un seul État. Et donc on a besoin de négocier à plusieurs, on a besoin de créer des règles ou d'avoir des décisions communes.
Alors les discussions se font notamment souvent dans les couloirs, beaucoup plus que dans l'Assemblée elle-même, dans cette salle du building de New York. Comment l'ONU peut gérer des grands dossiers de la planète quand on ne peut plus se voir, quand on ne peut plus en effet discuter ensemble ?
Alors, en effet, les discussions, elles n'avaient pas tellement lieu dans le cadre de l'Assemblée générale. Comme vous l'avez rappelé, c'est une succession de discours. Le fait que ça soit par visioconférence ou dans une salle ne change pas fondamentalement la donne. En revanche, ce qui change, c'est qu'en marge de l'Assemblée générale, dans les locaux des missions permanentes ou dans les hôtels, il y avait de très nombreuses réunions bilatérales, en fait. C'est-à-dire que les présidents, quand ils étaient là, les chefs d'État ou les ministres des Affaires étrangères, moi j'ai souvent accompagné le ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, et on multipliait les rencontres bilatérales avec tous les pays pour lesquels il y avait des sujets importants à traiter, je vais dire essentiellement les crises politiques. Donc on voyait les interlocuteurs des pays en crise, et on leur demandait leur avis et on discutait de solutions possibles. Et à partir de là, on pouvait peut-être retirer des éléments utiles pour le Conseil de sécurité. Parce que, évidemment, vous parliez de sécurité et de maintien de la paix. Vous savez que l'Assemblée générale n'a pas le droit de traiter ces questions, selon la Charte des Nations Unies. Ça, c'est la compétence exclusive du Conseil de sécurité.
Alors justement, un mot du Conseil de sécurité. 5 membres permanents représentant les 5 grandes puissances, héritage de 1945. Sauf que l'équilibre du monde n'est plus le même aujourd'hui.
Oui, alors effectivement, en 1945, il y avait 51 pays. Et en plus, pendant longtemps, il y avait des guerres internationales. Aujourd'hui, il y a 193 pays et il n'y a plus de conflits internationaux véritables. Il n'y a que des conflits internes. Les seuls conflits à connotation internationale sont des conflits internes dans lesquels des puissances extérieures interviennent, comme la Syrie ou le Yémen, par exemple. Mais tous les conflits sont internes. Donc théoriquement, la Charte de l'ONU réserve une compétence souveraine des États sur les conflits internes. Néanmoins, le Conseil de sécurité, quand il fonctionne et bien s'occupaient un peu de tous les conflits parce qu'ils étaient supposés déborder et menacer la paix internationale. Alors en fait, ça a fonctionné bien pendant une période assez limitée, qui était une période faste du multilatéralisme du Conseil de sécurité. En gros, de 1989, la chute du mur de Berlin, et surtout 91, le démembrement de l'URSS, la naissance de la Russie, jusqu'en 2015, grosso modo. À ce moment-là, la Russie était plus effacée, la Chine n'avait pas encore vraiment pris son essor, n'est-ce pas, qui date en gros quand même surtout de Deng Xiaoping, mais surtout de Xi Jinping, qui est arrivé au pouvoir en 2012. Et là, la Chine s'est affirmée comme une puissance rivale des États-Unis. Et donc, aujourd'hui, c'est bloqué. On voit bien que, par exemple, depuis 2015, il y a eu 14 vétos russes 5 vétos chinois et 2 vétos américains, et évidemment 0 veto français ou anglais.
Alors, il faut tout simplement peut-être une réforme de l'ONU et une réforme du Conseil de sécurité, parce qu'on a vu les blocages qu'il y a eu avec le début de la pandémie, avec la Chine, il fallait pas la froisser. Est-ce que la diplomatie, elle atteint pas ses limites aussi face à cette crise ?
Alors, la crise du Covid a montré une absence de volonté de coopération internationale, parce que Trump, d'abord, est ouvertement contre le multilatéralisme. Il a aussi menacé de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé. Et dans cette affaire du Covid, on a vu une paralysie du Conseil de sécurité à cause de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et les attaques de Trump aussi contre les décisions qui pouvaient être prises à ce titre. Alors, quant à la réforme du Conseil de sécurité, vous avez raison de dire qu'il n'est plus représentatif parce que entre 1945 et aujourd'hui, le monde a changé considérablement. Mais en fait, il y a eu des tentatives de réforme assez nombreuses, c'est-à-dire de nouveaux membres permanents ou un élargissement des non-permanents. Mais en fait, c'est bloqué. Pour plusieurs raisons. D'abord, les États-Unis et la Chine n'apparaissent pas très volontaires dans cette réforme du Conseil de sécurité. Et en plus, il y a un tas de pays qui se considèrent comme perdants dans une réforme. Pour donner quelques exemples, l'Argentine ne voudrait pas que ce soit le Brésil qui soit membre permanent. Si l'Allemagne devient membre permanent, ça ne plaît pas à l'Espagne ou à l'Italie. Si le Japon devient membre permanent, ça ne plaît pas à la Chine.
Voilà, c'est difficile d'envisager une réforme de ce Conseil de sécurité.
Ça ne plaît pas au Pakistan. Donc tous ces pays anti-réforme bloquent un peu le système.
Merci Nicolas Normand d'avoir répondu à nos questions en direct sur RFI. Je rappelle que vous êtes notamment ministre plénipotentiaire honoraire.